Prions. Oui, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu règnes. C'est à toi que nous devons l'être et la vie, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien, nous ne serions pas là. Seigneur, aide-nous à réaliser toujours davantage qui tu es, combien tu nous aimes, Seigneur, et combien tu es digne de nos louanges, de notre consécration, de nos énergies, de notre temps, de nos ressources, de notre vie, Seigneur. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour nous, Jésus. Et en retour, Seigneur, nous voulons te donner la nôtre. Nous voulons que tu sois vraiment la priorité des priorités dans notre vie. Seigneur, aide-nous à le faire, car les tentations, les distractions sont nombreuses. Et Seigneur, je confesse que bien souvent, je ne te mets pas en premier lieu, Seigneur, dans ma vie. Pardonne-moi, pardonne-nous lorsque nous le faisons. Aide-nous, Seigneur, à recevoir de ta parole ce matin. Merci parce qu'elle est la vérité. Merci parce qu'elle est sans erreur. Elle est entièrement digne de confiance, Seigneur. Sois vraiment glorifié. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen. Voilà, nous allons nous tourner, si vous le voulez bien, dans le deuxième livre des Rois, chapitre 12. La Bible est un livre un peu long, qui comporte en fait 66 livres. C'est un recueil, mais tous ces messages sont ordonnés, sont synchronisés, sont en harmonie avec un seul grand message. Dieu existe, il nous aime. Nous sommes éloignés de lui. Son Fils, qui est Dieu aussi, est venu mourir pour nos péchés, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible, c'est l'histoire de l'humanité qui s'est égarée loin de Dieu et de Dieu qui est venu racheter cette humanité. Le message de la Bible, c'est la rédemption. Le fait que Dieu vient nous racheter de nos péchés et l'ensemble de la parole annonce le sacrifice de Jésus, c'est l'Ancien Testament, et toutes les prophéties qui annoncent sa venue. Le Nouveau Testament, c'est le récit de son passage sur terre, l'annonce par les apôtres de comment il faut vivre et surtout l'annonce de son retour. Jésus, il est absolument central dans la parole de Dieu, dans la vie, dans l'existence, dans l'histoire de l'humanité. Et on a vu, en regardant les chapitres précédents dans le deuxième livre des Rois, que Satan fait tout ce qu'il peut pour empêcher la venue du Messie. Et il était à deux doigts d'avoir réussi, parce que ce Messie, il est prédit, il est prophétisé dans l'Ancien Testament, qu'il viendra par la lignée de David, d'un point de vue humain, qu'il sera le roi de la lignée royale de David, et en même temps, il est bien supérieur à David, qui n'était qu'un roi humain. Lui, il est le Fils de Dieu qui vient s'incarner, mais qui vient régner de façon éternelle. Et on a vu que Satan était arrivé à deux doigts d'éliminer cette dynastie, et ainsi d'empêcher l'accomplissement de la prophétie, l'accomplissement de la venue du Messie. Donc c'était un sacré problème. Et on a vu qu'il y avait une lignée royale de Omri en Israël, dont le fils Achab avait épousé une princesse sidonienne, Jézabel, qui était une femme d'une grande méchanceté, une idolâtre, qui avait introduit en Israël une idolâtrie, des faux dieux, et que une femme qui descendait d'elle, Athalie, avait décidé de prendre le pouvoir et d'exterminer tous les descendants qui descendaient de David. Heureusement, on a vu qu'il y avait une personne, la fille du roi Joram de Juda, Yehosheba, dont le nom veut dire « Dieu a juré ». Ce que Dieu a juré, il va l'accomplir, et il s'est servi de cette personne inconnue autrement pour protéger la lignée royale en cachant le roi Joas alors qu'il n'était qu'un enfant. Elle l'avait caché à l'abri des regards d'Athalie et ainsi ne fut pas mise à mort. Ça peut paraître comme une petite histoire sans intérêt, mais on avait bien mis l'accent la semaine dernière sur le fait que c'était capital, c'était la clé de notre salut, du rachat de l'humanité, du retour du Messie à la fin des temps. C'est remarquable de voir qu'une seule personne peut être utilisée par Dieu pour accomplir ses desseins. Là, elle avait le privilège de toucher un des plus grands desseins de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de l'univers, préserver la venue du Messie. Elle a été donc... Cette femme a été mise à mort. Il y avait un grand prêtre, Yehoiada, donné par Dieu, son nom veut dire cela, qui avait proclamé le jeune Joas comme étant le roi. Et nous nous trouvons maintenant au début du chapitre 12 que nous allons lire ensemble. Je lis dans la version à la colombe, si vous pouvez suivre dans d'autres versions. Si vous avez besoin d'une Bible, levez la main et on vous en amènera une en français. Je lis donc. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. La 7e année de Jéhu, c'était le roi en Juda, Joas devint roi et il régna et le roi d'Israël, pardon, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Tzibia de Beer-Sheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les instructions du sacrificateur Yehoiada. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Joas dit au sacrificateur, « Tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, l'argent ayant cours, savoir l'argent pour le rachat des personnes d'après l'estimation qui en est faite, et tout l'argent qu'on apporte spontanément à la maison de l'Éternel, que les sacrificateurs le prennent, chacun de la part des gens de sa connaissance, pour réparer les dégradations partout où il s'en trouvera. » Mais il arriva que la 23e année du roi Joas, les sacrificateurs, n'avaient pas réparé les dégradations à la maison. Arrêtons-nous là un moment. Le roi Joas est tout jeune, il n'a que 7 ans lorsqu'il devient roi. C'est intéressant de voir que le mot 7 revient plusieurs fois dans les premières lignes de ce chapitre. Il avait 7 ans, c'était la 7e année de Jéhu, le roi en Israël. Il était devenu roi, il avait régné 40 ans à Jérusalem, c'est souvent le temps d'un règne de roi complet, 40 années. Sa mère se nommait Tzibia de Beersheba. Sheba, c'est aussi le même mot, même le mot Tzibia, c'est le mot qui contient le mot 7. On sait que dans la numérologie, dans l'utilisation des chiffres de la Bible, les chiffres ont souvent une valeur symbolique. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de ce qui est complet. Pas nécessairement parfait, au sens où nous l'entendons parfaitement juste, parfaitement droit, parfaitement saint, mais ce qui est complet. Et donc, c'était un peu pour dire que le temps de l'arrivée du roi Joas sur le trône était arrivé. Et il y a des fois où on pense que les choses n'arrivent pas. Je me souviens, pour ceux qui ont vécu à Nice il y a quelques années, le tramway, la construction du tramway, c'était un projet qui n'en finissait pas d'être reporté de durée. Mais un beau jour, j'ai pu filmer un tramway que j'ai mis sur YouTube, le premier tramway que j'ai vu qui descendait l'avenue Masséna. C'est pas parce que les choses ne sont pas arrivées qu'elles ne vont pas arriver. Encore une fois, si Dieu a promis, ça va s'accomplir. Et là, le jeune roi Joas est enfin arrivé sur le trône. Il était, pour ainsi dire, guidé, où il y avait comme un régent, un co-régent, quelqu'un qui avait la maturité, qui était le sacrificateur Yehoyada. Sans doute, vous avez peut-être dans d'autres versions, le mot sacrificateur, c'est le mot prêtre. J'utilise la version qui est héritée de Louis II, un grand érudit d'origine suisse, franco-suisse, qui a édité une Bible. Il était tellement inquiet de ce que les catholiques, il voulait se démarquer d'une telle façon des catholiques qu'il ne voulait pas utiliser le mot prêtre. Parce que le mot prêtre, ça fait penser pour la plupart des gens, surtout en France ou en Suisse, à l'Église catholique. Et donc il avait remplacé le mot prêtre par le mot de celui qui s'occupe des sacrifices, le sacrificateur. Qui est un mot qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui évitait le mot prêtre. Donc le grand prêtre, c'était pour Louis II le grand sacrificateur. Ne vous laissez pas intimider par ce mot vieilli. C'était le grand prêtre Yehoyada qui lui seul avait le droit d'entrer dans le Saint des Saints, d'offrir les sacrifices. Et il avait assuré le règne, il avait encadré le roi Joas. Alors il y a plusieurs orthographes, mais c'est toujours le roi Joas, le même roi, qui était un bon roi. Vous savez que souvent, dans le livre des rois, la Bible résume la vie de ces rois en disant « c'était un bon roi » ou « c'était un mauvais roi ». Il avait suivi ses pères qui avaient mis Dieu à l'honneur, qu'il avait honoré par leur vie, par leur règne, ou bien ils avaient imité, des mauvais rois qui avaient laissé l'idolâtrie s'installer, qui avaient laissé l'idolâtrie subsister ou l'avaient même encouragée. C'est intéressant que je crois que nous aussi, sur notre tombe, un jour il y aura une date de naissance, un tiré et une date de décès. Et notre vie se résume en fait à ce petit tiré Et pour Dieu, elle se résume, est-ce que nous avons été des vrais croyants? Est-ce que nous avons placé notre confiance en Christ? À ce moment-là, la date, la deuxième date, elle pourrait être suivie de points de suspension, parce que nous allons être ressuscités à la fin des temps et nous allons vivre pour toujours avec Dieu. Ou bien nous n'avons pas honoré Dieu, nous avons continué de le rejeter malgré tout ce qu'il a essayé de faire pour nous parler, pour nous interpeller. Et à ce moment-là, cette deuxième date, elle sera vraiment une date finale de vie. Nous vivrons éternellement, mais nous vivrons séparés de Dieu en enfer, un endroit réel, ce qui équivaut à ne plus vivre. Vivre sans Dieu, ça n'est pas vivre. Je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, que je ne connaissais pas encore le Seigneur, j'existais mais je ne vivais pas. J'avais un grand vide dans mon cœur, au point que souvent les difficultés de la vie, les revers de fortune peuvent nous conduire à vouloir mettre fin à notre propre vie. La Bible nous dit que notre vie ne nous appartient pas. Lorsqu'on la prend, c'est souvent parce qu'on est désespéré. Et je ne veux pas condamner si vous avez des proches dans votre entourage qui se sont donné la mort. Et c'est plus fréquent qu'on ne croit. Dieu seul sait ce qui s'est passé dans le cœur. Et au dernier moment, la personne a pu reconnaître son erreur et avoir été trop loin. Mais est-ce que vous avez fait, ce qui comptera, c'est est-ce que vous avez fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ou pas? Dans le cas du roi Joas, il est dit ici qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps. Malheureusement, si on continue, ce n'est pas tout le temps de façon absolue, c'est tout le temps qu'il a suivi les instructions du sacrificateur Yehoiada. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas. Ça veut dire qu'il a fait de bonnes choses, il a suivi les instructions de Yehoiada, ce grand prêtre qui avait fait conclure, on peut regarder au verset 17 du chapitre 11, Yehoiada conclut entre l'Éternel, le roi et le peuple, l'alliance au terme de laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il conclut aussi l'alliance entre le roi et le peuple. Le peuple avait accepté de dire qu'il serait le peuple de Dieu et le peuple allait respecter le roi. Verset 18, tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal, ils la démolirent, ils brisèrent consciencieusement les autels et ses images et tuèrent devant les autels Matan, le sacrificateur de Baal, le grand prêtre du faux dieu Baal. Et il avait mis des surveillants, ils avaient installé le roi sur son trône et tout le peuple du pays se réjouissait. La ville était tranquille. Il avait conclu une alliance et il avait eu comme un réveil, un retour à Dieu. Mais là, on voit que le roi Joas, en fait, il n'avait pas été vraiment réveillé intérieurement lui-même. Et ce qu'il faisait de bien, sa foi, ses bonnes œuvres pour Dieu, elles n'étaient pas inspiré par sa propre relation avec Dieu lui-même. Et ça nous interpelle, parce que nous aussi, nous pouvons avoir la tentation de vivre une vie de foi par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. On peut avoir une relation avec Dieu qui passe par notre relation avec le pasteur, qui passe avec notre relation avec notre époux ou notre épouse qui est vraiment sauvée et qui suit Dieu de tout son cœur. Ça peut être aussi une relation avec Dieu par l'intermédiaire de nos parents. Si vous êtes né dans une famille chrétienne, sachez que c'est une grande bénédiction. Mais Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Vous-même, à un moment donné, et le plus tôt c'est le mieux, après avoir atteint un certain âge de raison, ça peut être très jeune, mais à l'âge de l'adolescence notamment, il faut que vous preniez une décision personnelle vis-à-vis de Jésus. Parce que les tentations de vous éloigner de lui vont être nombreuses. Vous allez fréquenter des personnes qui n'ont que du mépris pour Dieu, qui croient que c'est une vieille chose dépassée, que c'est un archaïsme à faire sauter, que c'est la source de tous les maux de la société, les gens religieux, les guerres de religion. Qu'est-ce que ça fait comme mort ? Et on sait que les plus grandes folies meurtrières de l'histoire n'ont pas eu la religion pour source. Les deux dernières guerres mondiales ont fait des millions de morts. Il n'y était pas question de se battre pour ou pour une religion. Il y avait un athéisme, il y avait un homme qui se proclamait le leader absolu, le Führer. Et des questions de nationalisme, des questions de culture ont fait que les hommes se sont entretués. Mais pour revenir à vous qui avez l'âge de l'adolescence, soyez très sérieux dans ce que vous faites. Vous devez prendre une décision. La foi de vos parents, elle peut avoir été un avantage parce qu'elle vous a mis en contact avec la foi très jeune dans votre vie, mais ça ne suffit pas. Et plutôt que de vous laisser influencer par le monde, il vaudrait mieux que vous soyez celui qui influence le monde. Et plutôt que de jouer avec des jeux pour être un super héros et faire des scores sans appel sur des jeux électroniques, soyez un vrai héros auprès de vos copains. Ayez le courage de dire que vous croyez en Dieu, que Dieu existe, que vous en êtes convaincu, que le suivre, ce n'est pas une source de bigoterie, une source de malheur, mais qu'au contraire, c'est une source d'épanouissement, parce que nous sommes faits pour connaître et aimer et servir Dieu. Ayez le courage de le faire. Quand vous arrivez dans un nouvel endroit, une nouvelle fac, un nouveau collège, une nouvelle classe, faites-le savoir tout de suite. Si on vous demande qu'est-ce que vous avez fait hier, dites « Tiens, j'étais au culte à Calvary Chapel. » « Toi, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va pas la tête ? Hé hey, les gars, il y a un gars, il est pour les curetons. Les moqueurs. » N'ayez pas honte de votre foi, proclamez-la en parole et surtout en acte. Soyez celui que les moqueurs vont venir chercher lorsqu'ils auront des problèmes, des crises. La Bible dit de jeter votre pain à la surface des eaux et ça consiste à partager votre foi. Vous ne savez pas, lorsque vous annoncez votre foi, qu'en fait il y a des gens qui vont rien dire parce qu'ils sont intimidés par le groupe des non-croyants, mais quelque part vous allez les impressionner, ils vont vous respecter et vous allez gagner la capacité d'être quelqu'un qui influence les autres au lieu de se faire influencer. Vous ne savez jamais, lorsque vous ouvrez la parole pour Dieu, ce qui est pas en résulté. J'ai eu une bonne surprise hier soir, j'ai reçu un email. Il y a 9 mois, mon fils était en formation avec Air France et on lui donnait la possibilité de, plutôt pour apprendre aux pilotes à comment réagit vraiment un avion lorsque les moteurs sont coupés. Ils ont fait un stage de planeur dans la région de Saint-Auban, dans les les Alpes de Haute-Provence. Les Alpes et les, la Haute-Provence, vous allez voir, ce n'était pas un bon signe parce qu'ils étaient 5 pour un stage d'un mois. Et à peu près aux 2/3 du stage, un de leurs copains, un de ces 5, s'est tué en planeur, en suivant de trop près une montagne. Il a été surpris de voir arriver sur lui une forêt qu'il n'avait pas anticipée et il s'est crashé instantanément. Une chose terrible, je crois que Air France a demandé au groupe s'ils voulaient continuer ou pas la formation et ils ont répondu de façon unanime, on n'a pas peur mais on préfère ne pas avoir à revivre cet accident tragique. Mon fils avait passé le week-end avant avec lui. Ce jeune homme avait suivi Sébastien à Toulouse dans l'appartement. Il était devenu la personne de la colocation qui avait remplacé Sébastien. Ils se connaissaient très bien. Et ça nous avait bouleversés. À l'époque, il ne voulait pas trop en parler. C'était quelque chose de trop, trop douloureux. Et on a prié parce que mon fils est éloigné de Dieu, que ce soit quelque chose qui puisse l'interpeller, lui montrer que même quand on est jeune, beau, fort, intelligent, que la vie vous sourit, à la veille d'une profession prestigieuse, du jour au lendemain, en un clin d'œil, pof, vous pouvez partir. Et donc, j'avais été moi-même bouleversé, je m'étais mis à la place des parents parce que je réalisais bien que c'était Guillaume, ça aurait très bien pu être Sébastien. Et j'avais fait un petit mot aux parents que je ne connaissais pas. J'avais pas leur adresse email, mais j'avais l'adresse du président de l'association des anciens élèves, etc. Donc j'avais envoyé un petit mot en demandant qu'ils fassent suivre. Et je n'avais plus eu aucune nouvelle. Et dans cette petite lettre, je disais simplement que je voulais les assurer de nos condoléances, qu'on imaginait mal la douleur qui pouvait être la leur, que de perdre quelqu'un, c'est toujours difficile, mais un enfant à la veille d'une vie passionnante, combien ça devait être douloureux à vivre. Et j'avais dit simplement, je sais que mes paroles ne peuvent pas être d'un grand réconfort, tout ce que je peux vous dire parce que je suis pasteur et que j'ai la foi qu'il y a un Dieu qui existe et qui nous aime. Ma prière pour vous, c'est que vous pouviez trouver le réconfort en Dieu, que si vous n'êtes pas croyant, si vous ne le connaissez pas, il puisse se révéler à vous par Jésus-Christ. Et j'avais envoyé le mail. J'avais jeté mon pain sur la surface des eaux. Sans aucune nouvelle depuis, jusqu'à hier soir, à 18h, je reçois un petit mot d'une jeune fille qui s'appelle Ophélie et qui me dit « Je suis la sœur de Guillaume qui s'est tué tragiquement au mois d'octobre dernier. Et je vous écris parce que vous êtes la seule personne qui peut être un lien entre moi et les copains de Guillaume. » Et toute l'année scolaire, je me suis demandé comment ils allaient, ce qu'ils avaient vécu, où ils en étaient de leur cursus. Et donc, si vous pouvez me mettre en relation avec eux, je l'apprécierais beaucoup. Et à la dernière ligne, elle marque « Et merci aussi pour votre email d'encouragement qui a été très bien reçu et apprécié. » Alors, c'est pas le réveil dans la famille, mais cette jeune fille s'est manifesté et je lui ai répondu en lui disant que oui, j'avais continué de prier pour cette famille endeuillée et que si elle avait l'occasion de passer dans la région, on la rencontrerait avec joie et que j'avais transmis sa lettre. Mais jeter son pain, parler de Dieu. Les gens, quand ils sont dans le besoin, peut-être là, ils vont se rappeler que quelqu'un leur a parlé d'un Dieu. Peut-être qu'ils vont être invités, peut-être qu'ils vont tomber sur la Bible de la grand-mère. Ils vont commencer à lire. Et pour vous qui êtes jeunes, dites aussi que vous aimez le Seigneur. Portez des t-shirts si vous avez du mal à dire. ou des posters sur des autocollants sur votre voiture ou votre Vespa. Là, ce roi Joas, lui, il avait laissé subsister de l'idolâtrie dans le peuple. Toutefois, c'est mauvais lorsqu'on dit « vous êtes un type super, mais vous êtes un type bien, vous avez vraiment des qualités pour le job, mais... » Ah. Et là, les hauts lieux, qui étaient des lieux d'idolâtrie, on a cette tendance naturelle de penser que si on est sur un monticule, si on est sur une montagne, on est plus près de Dieu. Dieu est partout, on n'est pas plus près de Dieu. Des fois, on est plus loin de la vallée et des tentations, et ça peut être une raison de s'isoler, de méditer, d'avoir plus de tranquillité. Mais là, les hommes aussi faisaient des sacrifices, ils montaient pour être plus près de leur faux Dieu. Et il y avait souvent des sacrifices humains, des sacrifices d'animaux, des parfums qui étaient offerts. Souvent, ça s'accompagnait d'orgies licencieuses, le sexe étant quelque chose de très fort dans l'être humain. C'était souvent une raison d'idolâtrie. Et aujourd'hui, notre société, elle est idolâtre de la sexualité, de l'argent, de la célébrité. Il y en a qui sont allés voir Johnny hier soir ? Non ? L'idole des jeunes, à 69 ans, les jeunes ont vieilli, mais il y en a encore qui seraient prêts à dépenser de grosses sommes. Ils ne vont pas donner d'argent au culte, mais ils vont être prêts à dépenser je ne sais pas combien pour aller voir Johnny. Joas dit aux prêtres qu'ils devaient s'occuper de la maison de l'Éternel. Le temple avait été construit sous Salomon, vous en souvenez, ça fait à peu près 150 ans. Il y avait eu des rois impies, des rois idolâtres qui n'avaient pas du tout pris soin du temple. Et le temple s'était dégradé avec le temps. D'autant que la reine Athalie, elle, avait un temple qui était destiné à Baal. Il est question, on l'a vu tout à l'heure, au chapitre précédent, verset 18, la maison de Baal qui avait été détruite par le peuple et dont le grand prêtre Matan avait été mis à mort. Joas, vous vous souvenez, il avait le temple tenait une place spéciale dans son cœur pour la bonne et simple raison qu'il y avait vécu au moins 6 ans. 6 à 7 ans, on l'avait caché là-bas. Donc il avait grandi dans l'enceinte du temple, sans doute dans une chambre, une des nombreuses chambres annexes. Le grand prêtre savait que c'était un bon endroit et la fille du roi Joram, Yehosheba, savait que c'était un bon endroit pour cacher le futur roi Joas, parce que la reine Athalie, elle ne mettait jamais les pieds dans le temple. Et Joas avait demandé au sacrificateur que l'on fasse des réparations. Il fallait réparer, verset 6, les dégradations partout où il s'en trouverait. Le Seigneur nous a bénis en nous confiant, en nous permettant d'acheter à crédit, certes, mais d'acheter, d'avoir des lieux qui nous appartiennent, même s'ils appartiennent pour l'instant à la banque. Et on voit qu'en l'espace de quelques années, il y a eu des dégradations, il y a des travaux à refaire. On a dû refaire la verrière qui laissait entrer la pluie sur le plancher. On a dû réparer les tuyaux d'évacuation des eaux usées. On a dû refaire l'électricité en haut. Du côté de la table de son, il y a des réparations qui ont été faites. Il faut repeindre. Dans ce coin-là, il y a de l'humidité. Il y a des murs à refaire. C'est un travail qui ne s'arrête pas. Et Joas avait à cœur de faire ses travaux. Mais les travaux coûtent de l'argent. Et nous vous remercions pour tous ceux qui ont participé en donnant votre dîme ou en offrant des dons spéciaux ou en donnant de votre temps. Et là, je sais que c'est souvent ce qui nous coûte le plus, c'est donner de son temps pour mettre les lieux en position de les utiliser. Ce qui compte, c'est pas l'Église, mais en même temps, c'est un outil qui vous permet de nous accueillir les uns les autres, qui nous permet d'avoir des activités à l'abri du mauvais temps, de la chaleur, du froid, etc. Donc même si l'on sait que le vrai temple de Dieu, c'est vous et moi, ce sont les pierres vivantes. Dieu n'habite pas dans une maison faite par les hommes, mais il est partout dans tout l'univers. Et il veut habiter en chacun de nous. Il y avait différentes sources de revenus. Il y avait d'abord l'argent consacré qu'on apporte de la maison de l'Éternel. Ça, c'est une référence au... On pourrait dire qu'aujourd'hui, c'était un peu comme la cotisation... Ce serait la cotisation que l'on doit payer pour appartenir à une association. Là, c'était en tant que membre de la communauté juive recensée. L'argent consacré qu'on a apporté de la maison de l'Éternel, c'était un demi-shekel, un demi-sicle. Ça représentait à peu près 11 grammes d'or au taux de l'or. Aujourd'hui, c'est à peu près 700 euros pour un kilo d'or. C'est pas cher, l'or, l'argent, comparé à l'or. L'or, c'est plus de 45 000 euros, un kilo d'or. Donc, l'argent vaut 60 fois moins que l'or. Mesdemoiselles, mesdames, regardez le métal des cadeaux que l'on vous fait. Non, je plaisante, mais sachez qu'il y a une grande différence. Toujours est-il que c'était chaque personne qui appartenait à la communauté, les adultes, les hommes, devaient avoir, et ça remonte à l'Exode, chapitre 35, je crois, on peut regarder, au début de la Bible, second livre, l'Exode 35, 20. Voilà, il est question simplement de l'argent consacré. C'est dans d'autres passages qu'il est dit que c'était un demi-cycle. Donc il y avait cette première cotisation, en quelque sorte. Et puis il y avait l'argent ayant cours, savoir l'argent pour le rachat des personnes d'après l'estimation qui en est faite. C'est un peu compliqué, mais ça équivaut à peu près... à la façon dont on pouvait consacrer quelque chose en mettant de l'argent. Pour nous, aujourd'hui, ce serait un peu la dîme. On exprime qu'on appartient à Dieu, que tout dans notre vie lui appartient. Toutes nos ressources, toutes nos capacités, notre santé, nos problèmes, tout en quelque sorte lui appartient. Et une façon de montrer ça, c'est selon le précepte de l'Ancien Testament, c'est de remettre avant tout calcul une partie de nos richesses, de nos revenus, de nos salaires, de nos ressources. Et la prescription selon Malachie, le prophète Malachie, c'était de donner un dixième de nos ressources, la dîme. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de prescription précise. Et il y en a souvent qui se disent « Ouf, j'ai pas à donner la dîme ». En fait, si on regardait bien les textes, on aurait des raisons de donner davantage que la dîme. Nous sommes au bénéfice du Nouveau Testament, nous savons que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il va revenir, nous voyons qu'en fait, nous avons bien des raisons de lui remettre en signe de reconnaissance que tout lui appartient une portion. Et là aussi, il n'y a pas de chiffre. Ce qui compte, c'est que vous le fassiez selon ce que Dieu met sur votre cœur. Et c'est vrai que ça peut être un dixième de vos ressources. Certains demandent, est-ce que c'est 10% avant les impôts ou après les impôts? Généralement, lorsqu'on se pose ce genre de questions, c'est qu'on a un peu du mal à les lâcher. Et ne vous en faites pas, Dieu connaît votre cœur. Vous connaissez tous probablement l'histoire de ce couple qui fréquentait une église où on faisait passer un panier pour l'offrande. Et l'homme sort un billet, le met dans le panier qui passe et qui dit à sa femme, « Zut, je me suis trompé, je voulais mettre 20 et j'ai fait tomber le billet de 50. » Et sa femme, très justement, avec humour et ironie, lui dit, « Ne t'en fais pas, Dieu ne créditera que les 20 euros à ton compte. » Dieu veut notre cœur avant toute chose. Et notre façon de lui montrer notre reconnaissance en retour, c'est de lui donner cette dîme. Et ça peut, il n'y a pas de chiffre encore, suivant vos besoins. Mais sachez que Dieu va bénir ce que vous lui donnez. Et souvent, les gens n'osent pas donner la dîme ou n'osent pas faire de dons réguliers parce qu'ils se disent... Mais comment est-ce que je vais pouvoir finir la fin du mois si je donne ça? J'ai déjà du mal à en gardant cet argent. Et vous allez voir que, de façon quasi miraculeuse, Dieu va honorer votre foi. Il va faire que la machine à laver ne va pas tomber en panne du jour au lendemain. Il va faire que vous allez tomber sur un voyage à bas prix ou que d'autres personnes vont vous donner des ressources inattendues. C'est un test de votre foi. Dans le prophète Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, juste avant le livre de Matthieu, le prophète disait « Apportez à la maison du trésor toute la dîme afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. » « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. » C'est le seul encouragement dans toute la Bible où on vous engage à défier Dieu. C'est très solennel. Et Dieu veut vous parler, peut-être vous n'avez jamais fait confiance à Dieu, pour donner régulièrement à la maison du trésor, c'est-à-dire aux ressources de l'endroit où vous êtes nourri spirituellement, en l'instance à Calvary Chapel. Si vous n'avez jamais fait, le Seigneur dit « Mettez-moi à l'épreuve ». Et en même temps, il ne vous dit pas « Vous verrez bien », il dit « Vous allez voir ce que vous allez voir ». Vous allez voir si je ne vais pas vous bénir au-delà de toutes vos attentes en retour. Et c'est vraiment un pas de foi, je sais, quand on ne l'a jamais fait. Mais une fois qu'on a fait ce pas de foi, on ne peut plus se permettre de ne plus donner. On sait que Dieu bénit, et en plus on voit que cet argent est investi pour l'éternité dans l'œuvre du Seigneur. Vous ne pouvez pas garder l'argent que vous avez avec vous lorsque vous décédez. Vous ne pouvez pas mettre une remorque derrière le corbillard. Vous pouvez, mais vous n'allez pas l'emporter avec vous. Les anciens, les civilisations anciennes avaient cette impression que on pouvait remplir la tombe de Toutankhamon avec des objets d'or et comment il aurait ça avec lui pour l'éternité, qu'il ne serait pas démuni. Mais 2000 ans plus tard, on a sorti ces choses en or et tous ces trésors, vous ne pouvez pas emporter avec vous vos richesses, mais vos richesses, vous pouvez les mettre à votre compte céleste en les investissant dans l'œuvre du Seigneur. Et Dieu est prêt à ouvrir les écluses du ciel. Ici, on a des petites fenêtres qui ressemblent davantage à des vasistas. C'est le mot qui désigne les petites fenêtres. Ça vient sans doute de l'allemand. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une petite fenêtre sur laquelle qu'on peut ouvrir. Dieu ne parle pas de ça, il parle des écluses. Si vous avez été près d'un bief ou des péniches montent, vous voyez que quand les écluses s'ouvrent, l'eau monte très rapidement. Faites confiance à Dieu. Et si nous revenons à notre livre des rois, nous verrons qu'il avait une troisième sorte de source d'argent, c'était tout l'argent qu'on apporte spontanément à la maison de l'Éternel. Sur la petite boîte qui se trouve près de l'extincteur, il n'y a pas de rapport entre le fait que c'est une boîte de dons et qu'il y a un extincteur, peut-être pour vous éviter de prendre feu. Il y a marqué dîme et offrande. Les offrandes, c'est ce que vous donnez en plus de la dîme. C'est bien si vous avez une habitude, une discipline, où vous donnez régulièrement chaque mois une partie de vos revenus. Je remercie ceux qui le font régulièrement, ceux qui ont même des virements installés, mis en place. C'est une bonne façon de s'assurer que ça continue et sans avoir peur, je vous rappelle que souvent l'été, parce que les gens sont loin de l'église, sont partis en vacances, on a des fois des difficultés à respecter nos engagements financiers. Donc, encore une fois, pensez-y. C'est le Seigneur qui pourvoit, que, avec vous ou sans vous, pour l'instant. Mais pensez-y. Et donc, il y avait cette cotisation, il y avait cette dîme, et puis il y avait ce qu'on donnait en plus. Et lui, le roi Joas avait dit, prenez de ces ressources et mettez-les pour faire réparer le temple. Mais verset 7, après 23 années, rien n'avait été fait. Rien n'avait été fait. On se demande pourquoi il avait mis si longtemps à réagir. Peut-être qu'il n'était pas trop conscient de ce qui se passait, ou il avait d'autres soucis, ou il remettait au lendemain ce qui aurait dû être adressé, ce qui aurait dû être fait le jour même. Et ça me parle aussi. Est-ce que vous procrastinez dans vos activités? Pour le Seigneur, surtout, c'est toujours le plus grave, mais même dans votre vie. On a des très bons amis qui viennent passer quelque temps, des amis américains de Seattle qui viennent passer quelque temps, et du coup, on a nettoyé des placards, on a fait des choses, on a entrepris des travaux qu'on avait laissés de côté depuis 2007, depuis 5 ans. On n'a pas fini ces travaux, mais ne procrastinez pas. Demandez à Dieu de vous donner les ordres de marche pour la journée. Et ça peut être d'aller témoigner, mais aussi de repeindre ce mur que vous avez préparé il y a 3 ans, comme le mur au fond de l'église qui est toujours Mitch et Christine avaient préparé il y a 2 ou 3 ans. Et il y a juste un coup de peinture à donner, mais toujours est-il que là, il a changé de plan. Il a appelé le sacrificateur, verset 8, il a appelé le sacrificateur et on leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ces travaux? Et il leur dit, on va changer de système, on va plus prendre l'argent de ces sommes qui reviennent, mais on va mettre une boîte spéciale pour les travaux. Donc c'est le verset 10. Le sacrificateur prit un coffre, perça un trou dans son couvercle et le plaça à côté de l'autel, à droite sur le passage par lequel on entrait dans la maison de l'Éternel. Il fait monter l'opportunité, il fait monter la visibilité du projet et il se trouve que les gens ont commencé à donner. Ils savaient que c'était pour un projet précis et souvent c'est vrai que quand on a un but précis, on peut avoir des dons désignés et sachez que si vous désignez des dons pour des travaux, pour des ressources, nous nous engageons, le mieux c'est de le faire au dos d'un chèque ou dans une enveloppe si vous donnez du liquide ou de nous en parler directement. Mais c'est très important que l'argent que vous consacrez à quelque chose aille à cette chose. Quand il voyait, verset 11, qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait avec le souverain sacrificateur, il mettait en sac et comptait l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Ils avaient institué un système de contrôle. Il y avait deux personnes qui comptaient l'argent. C'est la même chose ici. Sachez que le trésorier, avec une autre personne pour les dons faits à Calvary Chapel, de la même façon pour les dons faits pour l'association 1901, le Café Colombe et l'association La Colombe, il y a toujours deux personnes qui vérifient. Et donc, vous qui faites ça, sachez qu'il doit y avoir deux signatures, qu'il doit y avoir une date et un montant sur lequel vous êtes d'accord pour qu'il y ait une traçabilité de l'argent. Parce que des fois, malheureusement, ça peut être un domaine de tentation pour certains lorsqu'ils sont dans la difficulté financière de dire « Hop, je prends un billet de 10 euros, personne ne remarquera ». C'est un péché, mais c'est surtout pour éviter la tentation de ce péché qu'on a un système de vis-à-vis. Verset 12, cet argent était ensuite remis, l'argent contrôlé était remis entre les mains de ceux qui faisaient exécuter l'ouvrage de la maison. Donc il y avait une chaîne, une organisation. Et cet argent allait payer les charpentiers, les constructeurs qui travaillaient à la maison de l'Éternel, les maçons, les tailleurs de pierre pour les achats de bois, les pierres de taille, ils allaient à Leroy Merlin, ils allaient à Bricorama, les pierres de taille pour réparer la dégradation, pour réparer et pour couvrir toutes les dépenses destinées à réparer la maison. Mais, verset 14, on n'a pas acheté avec ça des bassins d'argent, des couteaux, des calices, des objets d'or. On donnait l'argent qui était ainsi recueilli pour réparer la maison d'Éternel. Et verset 16, c'était assez étonnant, on ne demandait même pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent. Il y avait une confiance qui s'était établie, il y avait ce réveil qui était mis en place. On conseille toujours, bien sûr, d'avoir une traçabilité aujourd'hui et de savoir ce qui devient l'argent, d'avoir les reçus des dépenses, des cartes de crédit qui ont été utilisées, des chèques, etc. C'est le travail de vérification du trésorier et du commissaire aux comptes qui est notre association de soutien, Acte 6. De façon, lorsqu'on vous présente des comptes, vous puissiez savoir où est passé l'argent qui a été donné. Et puis, il y avait une autre source d'argent. L'argent, lorsque les gens offraient des sacrifices de culpabilité, c'était un autre des sacrifices, et des sacrifices pour le péché, c'était un autre type de sacrifice. Ça, c'était réservé aux prêtres. Aujourd'hui, l'argent, sachez que l'argent recueilli par l'intermédiaire de cette boîte et votre dîme, en quelque sorte, et vos offrandes, tout est destiné au fonctionnement de l'Église, pas au salaire des personnes qui travaillent à plein temps, que ce soit moi ou mon fils qui travaille à temps partiel, ou d'autres personnes, ou ma femme. Nous sommes soutenus par des dons extérieurs à vos dons. C'est une situation qui n'est pas très saine, mais en attendant d'avoir remboursé un prêt qui dure encore une dizaine d'années, un prêt sur 15 ans. On est déjà à 5 ans de remboursement. Dieu a permis que ce soit fait. Il va y avoir cette plutôt on continue d'être soutenu de l'extérieur. Les sommes qui contribuent au remboursement des frais de fonctionnement de l'Église et des prêts d'acquisition des locaux permettraient, lorsque ce prêt sera terminé, d'offrir un salaire, pas un gros salaire, mais un salaire au moins le SMIC, pour un pasteur à temps plein, ce qui serait une bonne chose. Sachant que si vous voulez donner, si les dons sont supérieurs à ces dépenses, on pourrait commencer à offrir une contrepartie des frais de salaire des pasteurs. Le roi Joas fait front. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque le grand prêtre Jehoiada disparaît, il meurt. Il est même dans le livre des chroniques. Il y a un passage parallèle, les chroniques 24. Le temple est réparé et le roi, il meurt à 130 ans, le grand prêtre. On l'ensevelit, ça c'est le verset 15 du chapitre 24 des deuxième chroniques. On voit, en comparant avec le livre des chroniques, qu'en fait, Joas avait très bien commencé, mais parce qu'il n'avait pas une foi personnelle et une foi forte en Jésus, et qu'il dépendait du grand prêtre, lorsque ce grand prêtre disparaît, il va aller de mal en pis, et Dieu va lui laisser des difficultés. L'argent, verset 17, 18, alors Hazaël, roi de Syrie, monta pour combattre contre Gad, dont il s'empara. Hazaël avait l'intention de monter contre Jérusalem. Joas, roi de Juda, prit toutes les choses consacrées, celles qu'avaient consacrées Josaphat, Joram et Ahazia, ses pères, rois de Juda, celles qu'il avait consacrées lui-même, et tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison d'Éternel et la maison du roi, et il envoya le tout à Hazaël, roi de Syrie, qui s'éloigna de Jérusalem. Une chose tragique, c'est que Joas ne fait pas confiance à Dieu, il fait confiance dans les ressources qu'il croit posséder, notamment les ressources, les richesses du temple. Et il va donner ça pour éviter que le roi de Syrie ne vienne détruire Jérusalem. Une chose tragique, le reste des actes de Joas, verset 20, tout ce qu'il a fait, cela a été écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, des prêtres ont commencé à le reprendre, et il a même combattu le fils du sacrificateur Jehoiada, qui s'appelait Zacharie, dans le livre des chroniques, chapitre 24, verset 20. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour faire revenir à lui. Les prophètes leur apportèrent leur témoignage, mais ils ne prêtèrent pas l'oreille. L'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, fils du sacrificateur Jehoiada. Il se tint devant le peuple et lui dit, « Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel ? Vous n'aurez pas de succès, car vous avez abandonné l'Éternel, il vous abandonnera. » Et la réponse, c'est qu'en fait, le roi Joas fait assassiner le fils du grand prêtre, Jehoiadas, le dénommé Zacharie, et que des gens vont à leur tour se débarrasser de ce roi. Et il est dit, verset 21 de notre livre des rois, chapitre 12, verset 21, « Ses serviteurs se soulevèrent et formèrent une conspiration. Ils frappèrent Joas à Beth-Milo, qui est la descente de Silla. Josabat, fils de Shimeat, et Yoséa, fils de Shomer, ses serviteurs, le frappèrent. » Donc on a les noms des deux personnes qui ont tué le roi Joas. On les retrouve dans le livre des chroniques. « On l'ensevelit avec ses pères dans la cité de David, son fils Amathia régna à sa place. Tragique exemple de quelqu'un qui aurait pu bien continuer après avoir bien commencé. Il avait fait de bonnes choses, mais il s'était laissé influencer par des mauvaises fréquentations. David commence ses psaumes par le psaume 1. On va terminer par ce psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ne vous laissez pas influencer par des méchants, ce n'est pas des gens qui sont nécessairement de mauvaises personnes ou des gens vicieux qui font du mal. Dans le sens des psaumes, c'est des païens, des incroyants, des gens qui ne croient pas en Dieu. Et les conseils que ces gens vont vous donner ne sont pas de bons conseils. Heureux l'homme qui d'abord ne s'arrête pas selon le qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Parce qu'après s'être promené et avoir entendu des choses, on peut s'arrêter et parler à ces gens. Et pire encore, on peut s'asseoir sur le banc des moqueurs. On peut, et c'est là encore un conseil pour les jeunes chrétiens qui doivent dire qu'ils ont la foi en Dieu. Parce que sinon, ils vont être invités à la table des moqueurs. Puis après, ce sera très difficile d'avouer qu'on est chrétien. Et on se retrouvera pris, malgré soi, dans des choses qui ne sont pas plaisantes à Dieu. Mais, à l'opposé de ça, c'est l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Est-ce que vous lisez la parole? Est-ce que vous trouvez du plaisir à lire dans la loi de l'Éternel? Vous y pensez jour et nuit? Alors c'est un, bien sûr, c'est pas évident à faire, même si on travaille à temps plein pour le Seigneur, on se dit, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous fait du bien? Si vous trouvez la parole de Dieu ennuyeuse, c'est un signe que quelque chose ne va pas dans votre vie. C'est peut-être un péché, peut-être des fréquentations mauvaises, peut-être c'est que votre foi n'est pas basée sur la relation avec Dieu, mais sur des activités, sur le faire, sur des événements. Est-ce que vous faites ça, méditer sa loi, lire sa parole, y penser, mémoriser? Est-ce que chez vous, vous avez des petites cartes avec des versets à apprendre par cœur? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, mais j'ai été repris et c'est quelque chose que je veux refaire. Parce qu'on est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Tout ce qu'on fait réussit. Waouh! Alors ça ne va peut-être pas réussir financièrement, peut-être que ça ne va pas être vous épargner la maladie, des difficultés, mais vous aurez ce sentiment du sourire de Dieu sur votre vie. Alors que l'inverse, les méchants, ceux qui ne croient pas, les fréquentations de Joas, les conseils qu'il avait reçus une fois que ce grand prêtre est parti, c'est comme la paille que le vent dissipe, ils ne résistent pas au jour du jugement, ils ne peuvent pas être dans la communauté des justes, ils ne s'en sentent pas bien auprès des gens qui suivent Dieu, des gens qui croient en lui et veulent l'honorer par leur vie. L'Éternel connaît la voie des justes, par contre, la voie des méchants, la voie des pécheurs, elle mène à la perdition. Il n'y a pas besoin d'être un professeur Nimbus, de connaître les mathématiques avancées, d'être capable de faire voler des satellites pour voir le choix. Il y a un chemin qui mène à la perdition et il y a un chemin qui mène à la vie. Choisissons le bon chemin. Amen.